France Inter, le 18-20.
C'est ce qu'on appelle lâcher du lest. La ministre de la Santé l'a fait ici chez nous avec Nicolas Demorand il y a moins d'une semaine. Elle veut qu'on lui laisse remonter les connaissances qui sont les nôtres sur le cannabis thérapeutique et peut-être l'autoriser en France. Ce serait presque une révolution tant nous freinons sur cette affaire de cannabis médical depuis toujours. D'un côté, on a envie de dire il serait temps autour de nous, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Pays-Bas, Grèce, à des degrés divers. Je vous passe Israël ou les 30 États américains. Parfois on importe, parfois on produit. Les pro-cannabis thérapeutiques mettent en avant des effets très efficaces pour certaines migraines, pour certaines formes d'épilepsie, de sclérose en plaques, pour calmer les nausées en cas de chimio, par exemple. D'un autre côté, les académies de médecine et de pharmacie, que nous aurions d'ailleurs beaucoup aimé avoir avec nous ce soir, craignent pour des effets secondaires, dépression, attention perturbée, addiction et autres. Et on en parlera aussi, des réticences qui appellent à un encadrement strict. Et là-dessus, au moins tout le monde est d'accord. Pour vous donner une idée de notre hésitation, ceux qui souffrent de sclérose en plaques en France connaissent le Sativex, autorisé depuis 2014, mais tellement cher et surtout pas remboursé. Des études qui viennent des États-Unis ne font pas état, et là aussi on en parlera, de flambée de dépendance ou de criminalité en même temps que le cannabis s'est, disons, démocratisé. Alors, qu'est-ce qui bloque fondamentalement chez nous pour ce cannabis thérapeutique ? Est-ce qu'on peut dire que la réelle efficacité des gélules, des sprays, des comprimés par rapport à l'herbe, par rapport à l'huile ? On en parle ensemble ce soir et soyez les bienvenus.
Fabienne Synthèse. Le téléphone sonne.
Sébastien, bonsoir, c'est vous le premier et soyez le bienvenu au téléphone sonne.
Bonsoir.
Allez-y, Sébastien.
Je vous appelais en fait, moi, pour parler du cas de mon fils qui est touché par une maladie rare et qui génère une épilepsie en particulier et de l'intérêt que pourrait avoir le cannabis thérapeutique sur beaucoup de formes d'épilepsie. Dans le cas de mon fils, les quelques porteurs de cette maladie rare aux États-Unis sont traités en général à base de CBD, ils présentent des contre-indications faibles, et alors qu'aujourd'hui il est traité avec une dose adulte de benzodiazépine en particulier, qui a des effets sévères sur son fonctionnement. Et donc je voudrais savoir ce qu'en pensaient vos invités.
Merci beaucoup Sébastien. J'ai une curiosité Sébastien, avant de passer la parole à nos invités. Est-ce que vous avez eu la tentation ou réussi à faire, je sais pas, à vous procurer du cannabis thérapeutique ailleurs du coup ? Est-ce que ça a déjà été le cas ? Est-ce que vous avez pu voir sur votre fils ou pas du tout ?
Alors pour l'instant, on s'est posé la question, on n'a pas fait cette démarche effectivement pour plusieurs raisons. D'une part parce que pour nous ça doit être fait en accord avec un neurologue et ça doit être suivi sur le plan neurologique. D'autre part, actuellement, quand je regarde le prix du CBD qui est effectivement en vente libre et qu'on peut acheter à la rigueur au coin de la rue dans un magasin de cigarettes électroniques, le prix est autour de 100 € le gramme et je crois que sur une dose d'attaque, on serait autour de 300 € par mois pour un enfant épileptique. Donc, c'est difficilement assumable également pour une famille.
Merci beaucoup Sébastien pour cette excellente entrée en matière de ce téléphone sonne. Pour vous répondre ce soir et pour dialoguer ensemble, Olivier Véran est là, bonsoir.
Bonsoir.
Député La République En Marche de l'Isère, vous êtes neurologue au CHU de Grenoble et c'est vous qui avez organisé à l'Assemblée une journée d'audition sur le cannabis médical. Et bonjour Amine Benyamina, vous êtes psychiatre, vous êtes addictologue, vous avez votre ronde serviette à France Inter. Qu'est-ce qu'on peut dire, Olivier Véran, à Sébastien qui sait, parce qu'il sait qu'ailleurs, sur des gens qui ont la même pathologie que son fils, ça marche, mais lui, il ne peut pas. Qu'est-ce qu'on peut répondre ?
Là, c'est le neurologue qui vous répond plutôt que le député.
Allez-y, ouais.
Il existe un médicament disponible en France qui s'appelle l'Epidiolex, qui est un médicament qui peut être prescrit dans certaines indications, notamment certaines épilepsies pharmaco-résistantes, c'est-à-dire résistantes au traitement classique, qui touchent l'enfant, certains syndromes épileptiques graves. Donc, il est possible de l'avoir sur prescription avec un prix qui est d'ailleurs fixé, un médicament qui est remboursé. Ça fait partie justement des très rares cas de maladies qui peuvent faire l'objet d'une prescription de molécules contenues dans le cannabis. On va peut-être juste résumer rapidement les choses. Dans le cannabis, vous avez deux grandes molécules actives, deux grandes substances actives, ce qu'on appelle le CBD, le cannabidiol, et puis le THC, qui est la partie de la molécule du cannabis qui provoque des effets psychoactifs recherchés par certains consommateurs récréatifs.
Le CBD plutôt euphorisant, en fait.
Voilà. Et l'une comme l'autre des molécules peuvent avoir un certain intérêt pour certaines pathologies. On ne sait pas tout. Finalement, il y a assez peu de recherche parce qu'il y a peu de grands labos qui font des recherches à partir du cannabis thérapeutique, mais on sait que le CBD, effectivement, dans certaines épilepsies de l'enfant, peut être tout à fait bénéfique.
Mais ça veut dire qu'un médicament à base de cannabis, pour bien expliquer aux gens qui nous écoutent, peut être à base de CBD ou de CBD et de THC, des deux à la fois, ça marche comment en général?
Oui, aujourd'hui, ce qui est...
Est-ce que c'est l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre à chaque fois?
Aujourd'hui, ce qui est autorisé, vous pouvez même trouver en vente libre des médicaments ou de la substance à base de CBD, sans restriction, et du THC, mais en dessous de 0,2%, c'est-à-dire en dessous d'un effet psychoactif qui peut être recherché par les consommateurs récréatifs. Donc ça peut exister, et vous avez des médicaments qui vont contenir tant ou tant de pourcents de CBD et de THC qui peuvent être accessibles, y compris en France. La loi a changé en 2014 et donc ces médicaments sont accessibles, en tout cas en théorie. Mmh. La question du cannabis thérapeutique, qui est beaucoup plus large et qu'on abordera sans doute tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de la plante cannabis, vis-à-vis de l'huile à partir de cannabis qui contient des taux plus importants de THC avec des effets psychoactifs et que c'est aujourd'hui considéré comme un stupéfiant interdit en France, mais reconnu comme ayant un effet thérapeutique positif dans 17 pays de l'Union européenne.
Et on va y venir, effectivement. Moi, il y a une chose qui m'intéresse, Abid Meniamina, peut-être dans ce qui vient d'être dit, c'est il existe effectivement un certain nombre de médicaments. Il y a des choses qui ont été débloquées en 2014, mais en théorie. Et tout est dans le « en théorie » pour l'instant, vraisemblablement, parce que c'est extrêmement cher, très peu remboursé. Et donc difficile d'accès.
Et c'est le parcours du combattant. Mmh. C'est très, il faut être connaisseur du dossier pour répondre comme vient de le répondre le neurologue Olivier Véran. Évidemment, c'est ce qui est terrible, c'est que on le sait intimement, notamment les gens qui connaissent le dossier, que les cannabinoïdes thérapeutiques, qu'on appelle cannabis thérapeutique, ont des indications précises dans des niches de prescription pour des personnes qui doivent en bénéficier parce que c'est un vrai confort de vie. Lorsqu'on a un enfant qui fait entre 10 et 20 crise d'épilepsie par jour, et que les médicaments usuels, et notamment des médicaments lourds comme les benzodiazépines, qui ont une plus forte probabilité de dépendance que le cannabis, sont prescrits. On est sur quelque chose qui est totalement contradictoire. Évidemment, il est important, c'est ce qu'on a vu lorsqu'il y a eu lorsqu'Olivier Véran a organisé la consultation à l'Assemblée nationale, on a découvert que le cannabis était légal dans des niches particulières dont on ne fait pas la publicité et pour lesquelles il est utile d'en parler et ensuite d'élargir et de mettre de l'ordre. Lorsqu'on demande à l'auditeur, est-ce que vous avez pu vous procurer du cannabidiol, c'est la jungle. Moi, je lui déconseille d'aller acheter ça là-bas parce qu'on a des produits de mauvaise qualité, frelatés, on ne connaît pas les dosages, on ne sait pas d'où ça vient. Et je ne donnerai pas à mon enfant du cannabidiol que je vais acheter dans la rue.
Puis il vaut mieux une ordonnance, un conseil médical avant de prendre des substances et les donner à ses enfants. C'est évident.
On va y revenir évidemment au fil des questions, mais moi, il y a quelque chose qui... la restriction, elle vient d'où, en fait? Pourquoi? Parce qu'au final, on a l'impression que plus personne ne conteste le fait que sur certaines pathologies et certaines formes, vous le dites effectivement, il s'agit de niches, mais enfin les niches c'est important aussi. Donc on sait que c'est bénéfique à un certain nombre de gens, on sait jusqu'à quel point il faut que les dosages soient respectés, etc. Très bien, mais alors qu'est-ce qui bloque chez nous en fait? Pourquoi ça marche pas?
Deux blocages. Ouais. D'abord un blocage scientifique. Il faut, pour reconnaître une molécule comme étant un médicament actif, qu'il y ait des études qui soient menées. Et ces études coûtent très cher. Ça peut coûter jusqu'à 1 milliard d'euros pour tester en population réelle, faire des études dans laboratoire.
Mais les autres
ne
l'ont pas fait pour nous? Pardon, mais les Israéliens,
aucun grand laboratoire privé ne s'est vraiment penché sur la question. Et donc, il y a des publications qui se multiplient dans la littérature internationale, mais on n'a pas encore une synthèse globale comme on peut l'avoir dans d'autres médicaments. Et puis, l'autre question, ça tient à ce que représente le cannabis.
Oui, c'est
le cannabis est considéré comme un stupéfiant. Ce qui est assez paradoxal, c'est que la morphine, qui est un dérivé direct de l'héroïne, ça a été découvert sur les champs de bataille pendant la guerre entre la France et l'Empire prusse. On donnait ça aux soldats, on donnait l'héroïne, et ensuite on s'est rendu compte qu'il valait mieux donner de la morphine, qui avait un peu moins d'effets indésirables. Je peux prescrire comme neurologue des dérivés de l'opium à tout va à des patients qui parfois sont soulagés de leur côté par du cannabis qui a
beaucoup moins d'effets indésirables. Donc le cannabis, c'est un truc de chevelu qui fume en écoutant de la musique. Non, mais sérieusement. On a l'impression qu'il y a toujours cette caricature,
Encore une fois, l'argument scientifique, je le mettrai en premier. Si on avait la preuve incontestable que le cannabis guérit des maladies, c'est le cas notamment, pas guérir, mais en tout cas apaiser des maladies.
On parle de soulagement, là.
Voilà, c'est ce qu'on disait dans l'épilepsie de l'enfant pharmacorésistante. On ne s'est pas posé la question, on l'a évidemment autorisé. Le Sativex dans la sclérose en plaques, chez les patients qui ont la rigidité, par exemple, la spasticité, est aussi disponible, en tout cas en théorie.
Bonsoir Stéphane.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu Stéphane, on vous écoute.
Merci pour vos émissions. Eh bien, ça tombe bien puisque j'ai une sclérose en plaques. Et donc, ma spasticité est bien atténuée par du cannabis. Et c'est scandaleux, le Sativex est pratiquement indisponible. Dans la pratique, c'est pas possible. C'est jamais prescrit et les prix Donc, il ne reste plus que se débrouiller par soi-même.
Racontez-moi, Stéphane, vous allez voir votre médecin, vous dites « je sais que le Sativex existe ». Qu'est-ce qu'on vous répond ? Qu'est-ce qu'il vous répond, vous, le médecin ?
Il n'y a pas de prise en charge. Donc, à partir de là, c'est pas possible. Financièrement, c'est pas possible.
Et ça coûte combien ? Une boîte de Sativex en France, c'est combien ?
Ah, j'en ai aucune idée.
Parce que moi, j'ai lu des choses, peut-être que vous allez pouvoir nous aider, Amine Benyamina, non ? Moi, j'ai lu des choses, j'ai lu 550 € la boîte, par exemple.
Ça m'étonne pas, de toutes les façons, que ça a bloqué au niveau du prix. Et je connais pas le prix, très honnêtement.
Mais pardon, c'est qui ? C'est le labo qui dit, moi, ma boîte, c'est 550 €.
Les travaux m'ont coûté ça. Voilà le rapport médico-économique. Je demande 60% de remboursement du prix parce que voilà, quelle est la possibilité pour moi. Et donc, c'est discuté au niveau des instances de transparence. Et puis, ça bloque depuis 2014.
Stéphane, du coup, vous, pour vous soulager, vous achetez du cannabis et vous le fumez tout seul. En gros, on parle d'automédication. Alors, c'est comme ça que ça marche pour vous ?
En gros, c'est ça. Sauf que je le fume pas, mais je le vaporise.
D'accord.
Donc vos spécialistes doivent connaître. Et c'est par exemple une nuit sans cannabis le lendemain matin. Enfin, c'est une nuit compliquée à gérer musculairement.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Stéphane. Olivier Véran, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Comme ça n'existe pas, ou très difficilement, à la prescription, Stéphane, ça s'appelle l'automédication, finalement, ce que fait Stéphane.
C'est pour ça que j'ai organisé ce colloque à l'Assemblée nationale. Vous savez, ce matin, j'étais au CHU de Grenoble en blouse blanche. Je suis encore le lundi matin. Il m'arrive d'avoir des patients qui ont des scléroses en plaques, qui ont des douleurs neuropathiques intenses, et qui me disent qu'ils sont soulagés davantage par du cannabis, qui a moins d'effets indésirables sur eux que des médicaments plus lourds que je peux leur donner et leur prescrire. Comme je suis à Grenoble, je ne suis pas très loin de la Suisse, donc il n'est pas rare que certains de mes patients franchissent la frontière et aillent se fournir. J'ai découvert au cours de ces auditions, enfin ma question c'était qu'est-ce que je leur réponds ? Et comme médecin, et comme parlementaire. Et j'ai découvert qu'il y a des médecins français qui prescrivent en toute légalité, sur des ordonnances sécurisées, du cannabis, de la marijuana en tant que tel. Les patients vont se fournir dans les pharmacies et des centres de distribution aux Pays-Bas. Jusqu'ici, entre guillemets, tout va bien. Et quand ils rentrent en France avec une ordonnance, ils se font arrêter par la douane. Il y a peu de cas de condamnation parce qu'il y a une espèce de bienveillance, un accès compassionnel à cette molécule. Et c'est la question à laquelle j'ai envie de répondre, comme parlementaire cette fois-ci. Jusqu'où est-ce qu'il faut que nous allions ? Quelles sont les indications ? Quels sont les patients qui pourraient bénéficier de ce type d'indication ? Dans le cas du Sativex, dans le cas du Sativex, il y a un écart entre le prix exigé par le laboratoire et l'effet positif escompté du médicament. C'est-à-dire que le laboratoire est très gourmand par rapport à l'effet positif sur la santé des patients.
Il pense qu'il est beaucoup plus efficace qu'il ne l'est.
C'est pas qu'il pense qu'il est beaucoup plus efficace, il dit juste comme il n'y a pas de concurrence, c'est ce prix-là, point barre. Okay. L'État dit on ne cède pas à ce bras de fer. On l'a, vous savez, pour le Sativex, on l'a pour d'autres médicaments. Donc c'est dommage parce qu'effectivement on voudrait que les patients en bénéficient, mais parfois c'est aussi la responsabilité des laboratoires que d'être capable de.
Vous nous décrivez, Olivier Véran, une formidable hypocrisie finalement, y compris par rapport aux prescriptions du cannabis, parce que je voudrais bien comprendre. Si j'ai une ordonnance que vous m'avez faite et que je peux aller me fournir ailleurs, donc aux Pays-Bas par exemple, que je reviens et que la douane me trouve avec mon cannabis, je peux montrer mon ordonnance, c'est ça l'idée ?
Oui, mais elle n'a pas vocation de preuve, mais vous avez entre guillemets les circonstances atténuantes. Les Pays-Bas sont le seul pays.
C'est ma bonne foi.
Les Pays-Bas sont le seul pays à avoir rétabli dans leur pharmacopée les feuilles de cannabis, de marijuana. Les autres pays ne le reconnaissent pas en tant que tel. Les Pays-Bas l'ont fait. Le Canada fait à titre expérimental et compassionnel un accès à du cannabis qui peut être consommé sous différentes formes, des pommades vaporisées, comme le disait le monsieur tout à l'heure, avec des registres qui sont bien tenus de patients qui relèvent de prescriptions sécurisées, etc., pour des choses bien particulières. Mais c'est vrai qu'en France, vous savez, l'histoire des drogues en France, Amine le sait bien mieux que moi, elle est aussi marquée par l'histoire de notre territoire. C'est-à-dire que jusque à la fin des années 60, la possession et la vente de stupéfiants n'étaient pas pénalisées. C'est quand la France a perdu toutes ses colonies et que la France n'était plus un pays producteur lui-même qu'on a interdit dans le droit. Et c'est intéressant parce que je discutais avec un élu local de la Creuse qui a fait un peu de bruit ces dernières semaines, qui disait il faut rouvrir l'accès au cannabis thérapeutique, comme ça on va développer notre territoire. Donc souvent, il y a une intrication assez forte entre les deux.
L'élu de la Creuse qui veut effectivement produire de la Creuse, c'est ça ?
Et de la Creuse,
c'est ça. Qui veut produire parce que économiquement, effectivement, ça peut.
Ça peut
entendre.
Exactement. Amine Benyamina, juste une question avant qu'on retrouve Marc au standard. Vous, l'addictologue, est-ce que la crainte de devenir addict avec du cannabis thérapeutique, est-ce qu'elle existe ou est-ce qu'elle est nulle en
fait ? Elle existe chez les gens qui ne connaissent pas le cannabis thérapeutique, évidemment. Olivier tout à l'heure l'a dit, on a un ratio entre le cannabidiol et le THC. Et d'ailleurs, mieux vaut mettre du THC avec le cannabidiol parce que l'effet du cannabidiol et du THC associé est bien meilleur chez les patients qui peuvent en bénéficier. La crainte est inexistante. On a fait d'ailleurs une expérience dont des expériences ailleurs, notamment en Israël, ils ont tout essayé.
Évidemment. Puisque c'est le pays en pointe, les États-Unis
évidemment,
aussi, est-ce que l'addictologie a augmenté dans ces pays-là ?
Sûrement pas. Mieux que ça, je peux vous assurer que actuellement aux États-Unis, il y a la plus grande épidémie d'overdose avec
des opioïdes,
notamment le fentanyl. Et on s'est rendu compte que le cannabis thérapeutique baissait la prévalence de ces problèmes, et y compris en matière de dépendance à l'alcool. Donc on voit un véritable effet qui n'était pas recherché, qui est un effet à côté et vertueux de la diffusion du cannabis dans ces pays-là.
Et c'était un peu le sens de votre question, Marc. Bonsoir.
Oui, bonsoir à tous.
Allez-y, on vous écoute.
Oui, je vous appelle parce que j'ai la sclérose à plaques depuis 2003. Et donc j'ai suivi des traitements depuis cette période-là, donc des traitements intramusculaires ou sous-cutanés ou médicaments oraux. Et notamment, lorsque j'ai pris le Tecfidera, j'ai dû arrêter le traitement pendant 2 ans parce que cela donnait des effets secondaires avec une baisse significative des globules blancs. Et donc je voulais savoir, avec le cannabis, quels étaient les effets secondaires, voire les effets indésirables qu'on pourrait subir.
Merci beaucoup Marc. Olivier Véran, effet secondaire et indésirable.
Oui, je peux peut-être y répondre.
Comme vous voulez, l'un l'autre.
Il y a des éléments de sédation qui ont été rapportés. On peut avoir des effets liés à l'excipient, mais rien d'autre. Le problème, c'est que je ne suis pas prosélyte, mais c'est la réalité. Et d'ailleurs, la plupart de ceux qui veulent bénéficier du cannabis thérapeutique, c'est pour éviter les effets secondaires des médicaments usuels dans ce type d'indication. Moi, je vois, alors je ne suis pas un neurologue, c'est parce que ma position est publique et connue. Je vois un certain nombre, après l'émission, je vais avoir des mails. Je vois un certain nombre
nous
de patients. Un certain nombre de patients qui prennent contact avec moi, qui me demandent comment faire pour avoir du cannabis thérapeutique ailleurs qu'en France.
Oui.
Alors, ce que je fais, c'est que je les mets en contact avec ceux qui ont déjà eu la possibilité pour ne pas me retrouver dans cette position. Je ne dis pas que tout le monde doit bénéficier du cannabis thérapeutique. Je dis qu'il y a un certain nombre de patients pour lesquels il y a une qualité de vie qui est engagée, parce que ce sont des triples, des quadruples thérapies, ce sont des femmes qui sont détruites par les corticoïdes, ce sont des personnes qui sont détruites par des anticancéreux chez lesquels on peut avoir des effets sur le plan cardiaque, sur le plan métabolique, qui peuvent bénéficier de ce traitement. Et c'est une niche, mais je pars du principe en tant que médecin, c'est que c'est une perte de chance. Dans la mesure où c'est une perte de chance, je ne vois pas pourquoi on va évidemment stigmatiser une molécule qui est encore en devenir.
Olivier Léran.
J'ai vu une étude internationale publiée, valide scientifiquement, qui est intéressante, qui montrait que chez des patients qui ont un cancer, sous chimiothérapie, radiothérapie, qui avaient perdu du poids, qui prenaient de la morphine, donc qui perdaient du poids, qui vomissaient, qui avaient perte d'appétit, et qui ont été mis sous cannabis thérapeutique, ils ont plutôt repris du poids, le cannabis donne plutôt faim, il coupe plutôt les nausées, et il accélère le transit. Donc les gens ont repris jusqu'à 10-15 kilos. Donc il y a des études qui sont intéressantes. Encore une fois, pas suffisamment complètes pour se dire c'est open bar, on va y aller. Et surtout, je différencie bien, je fais vraiment la part des choses dans la réflexion qui est la mienne entre le cannabis à visée médicale et le cannabis récréatif. Attention, on ne parle pas la même chose.
Oui,
et on est dans un accès compassionnel à une molécule qui peut apporter un soulagement, et parfois même c'est l'effet psychoactif du cannabis qui va apporter le soulagement à des gens qui ont une maladie chronique, des traitements très lourds et qui n'en peuvent plus.
Mais c'est parce qu'on confond le cannabis thérapeutique et le cannabis récréatif que c'est si compliqué en France, non ?
Vous disiez tout à l'heure, Fabienne, que d'où vient le blocage ?
Ouais.
Je pense qu'il y a un blocage dans l'esprit, de manière inconsciente, y compris de certains médecins, qui pense que pour ceux qui défendent le cannabis thérapeutique, c'est le cheval de Troie à partir duquel on va aller jouisser, consommer du cannabis. Bien que ma position soit pour la légalisation, mais dans un cadre différent de santé publique, je pense qu'il faut donner sa chance à cette molécule. Et très clairement, il faut distinguer les choses, parce qu'il y a des garde-fous qui ont été mis en place dans des pays où on a légalisé le cannabis thérapeutique, notamment en Allemagne. Je n'ai pas le sentiment que l'Allemagne, c'est un pays, disons, laxiste. On rembourse même dans des indications. En Italie, on a un arsenal législatif pour ce qui est du cannabis festif qui est aussi dur que le nôtre, mais on a absolument libéralisé le cannabis thérapeutique. Donc il y a l'intelligence qui peut s'exprimer et évidemment faire le travail, faire l'introspection de la société, y compris des médecins. Moi j'ai des personnes qui sont allées voir de bonne foi, qui n'ont pas du tout envie de se shooter entre guillemets au cannabis, sont allées voir des médecins de notre génération, même plus jeunes que nous, chez lesquels il y a une espèce de recul, il y a une espèce de frilosité parce qu'on a parlé de cannabis. Il y a un travail pédagogique à faire, il y a un travail d'information de la population, il y a à remettre dans une dimension de pharmacopée Tous les médicaments viennent de la nature.
C'est une question de forme aussi. Si voilà. c'est un médicament, une gélule ou une chose comme ça,
ça
passe mieux. C'est un médicament. Pommade. Si c'est alors ou une pommade. Si c'est quelque chose à fumer ou à mettre dans du thé ou je ne sais quoi, tout de suite ça passe différemment.
Au Canada, en Amérique du Nord, c'est vaporisé, hein, c'est-à-dire que c'est pas consommé. Moi, dans les auditions, j'ai vu des associations de patients. J'ai vu une femme d'un certain âge, 65 ans, je crois, qui me disait elle-même qu'elle n'avait jamais consommé de sa vie. Elle n'imaginait pas en consommer une seule fois, mais elle a eu un cancer et ça l'a soulagée et elle l'a consommée sous forme d'onguent, de pommade qu'elle faisait tester d'ailleurs en laboratoire par des experts pour vérifier qu'il y avait la bonne composition. Donc on peut aller vers quelque chose qui ne soit pas du cannabis fumé. Vous savez, en 2014, j'étais député, quand il a fallu modifier la loi pour permettre aux sativex d'arriver sur le territoire national. Donc on a considéré que des molécules à partir de cannabis, composant cannabis, pouvaient être prescrites en France. J'avais été interviewé et à l'époque, comme quoi on a déjà avancé.
Ouais.
Si j'avais tenu le genre de propos que je suis en train de vous tenir aujourd'hui...
Vous seriez en prison.
On aurait hurlé. Là, la question, elle est plutôt de se dire, on regarde en bonne intelligence, le Canada, les États-Unis pour certains États, 17 pays de l'Union Européenne sont, entre guillemets, plus avancés, en tout cas sont allés plus loin que nous en matière de cannabis à visée médicale, encore une fois. Peut-être qu'on peut se poser la question, peut-être qu'on peut avoir ce qu'on appelle une rétrocession hospitalière, c'est-à-dire que vous pourriez avoir accès à une quantité limitée dans une pharmacie hospitalière, une prescription par un spécialiste, neurologue, psychiatre, médecin spécialiste de la douleur, un registre nominatif des patients qui bénéficieraient de ce traitement.
Ça nous permettrait de faire un suivi. Je vous écoute, mais il n'a jamais été question que ce soit différent, par ailleurs. Enfin, je veux dire, il n'a jamais été question que le cannabis thérapeutique ne soit pas prescrit.
Vous savez très bien, quand on met un sujet dans le débat public, un sujet entre guillemets brûlant, vous savez, souvent en santé, de façon générale, un mot c'est une crise. Regardez, vous avez un auditeur sur France Inter. Non mais un auditeur sur France Inter interroge la ministre de la Santé sur un sujet qui ne faisait pas partie de l'actualité de l'agenda public et quelques jours plus tard, vous m'invitez pour qu'on puisse en débattre.
Absolument.
Donc ça va très vite quand on parle de santé et quand vous mêlez en plus la santé avec un sujet entre guillemets brûlant mais qui à mon sens n'y a pas de sujet brûlant, il y a que des façons brûlantes ou non brûlantes de les aborder. Et les auditions au Parlement m'ont vraiment surpris, j'ai vu aussi des juristes, des avocats, j'ai vu aussi des spécialistes, des présidents, le président de la MILDECA, c'est-à-dire la mission de lutte contre les drogues. Qui est venu aussi à l'Assemblée nationale. C'est extrêmement intéressant. Quand on commence à creuser, il y a une littérature internationale qui est fournie. C'est beaucoup de boulot, mais c'est extrêmement intéressant.
Bonsoir Pierre-Alex.
Oui, bonsoir.
Vous êtes pharmacien, Pierre-Alex, allez-y.
Oui, tout à fait. Bonsoir à tous et merci pour la qualité de vos émissions. Je voulais juste intervenir à propos du cannabis thérapeutique et insister sur le fait que le cannabis thérapeutique THC et CBD ont des super effets, notamment sur certaines douleurs de la sclérose en plaques, et qu'il faut éviter de se tourner vers les plans de cannabis actuels dont le rapport entre THC et CBD est complètement déséquilibré par rapport à ce qu'il était dans les années 60. Dans les années 60, on était à un rapport pratiquement de, on va dire, 40-60, et aujourd'hui, on est plutôt en rapport de 95-5 en faveur du THC. Le THC a induit énormément de psychoses. Il n'y a pas que la schizophrénie, il y a énormément de psychoses. Il n'y a aucun fumeur de THC qui reste indemne. Et le CBD protège de tout ça.
Merci Pierre-Alex, et vous avez raison, il a raison de dire ça, Pierre-Alex.
Oui, évidemment, on a de jolis travaux qui ont été faits par des saisies de la douane américaine. Et en France aussi, j'ai eu quelques étudiants qui ont travaillé là-dessus. Le ratio THC-cannabidiol a été multiplié par 6.
Ça veut dire que c'est plus fort, pour expliquer aux gens, beaucoup plus euphorisant.
Plus euphorisant,
donc ça met dans un état qui n'a rien à voir.
Pourquoi ? Parce que les trafiquants mettent en place un type de cannabis pour permettre de rendre un peu plus dépendant et avoir un peu plus de clients. Ce qui est tout à fait vrai. C'est la raison pour laquelle il faut que la force publique, l'État intervienne et garantisse, c'est ce que je disais tout à l'heure, garantisse un peu la qualité de ce que les Français consomment. Vous parlez tout à l'heure d'Israël. Évidemment, ça fait des années qu'on travaille là-dessus. En 1996,
qui arrose le monde entier, puisqu'il produit en Israël.
Raphaël Mechoulam, qui a beaucoup travaillé là-dessus, a commencé à essayer de faire un travail de sensibilisation auprès de ses collègues. Maintenant, ce sont les cancérologues, ce sont les neurologues, ce sont les personnes en charge de la douleur qui deviennent carrément les ambassadeurs de ce type. Et c'est très codifié, c'est très organisé. Il y a des fichiers, il y a des dosages. Jouissait avec du cannabis. Ce n'est pas ça du tout, Israël.
C'est important ce que dit Pierre-Alex, parce que ça rejoint Olivier Véran, ce que disait l'un de nos auditeurs précédemment. Puisque je ne peux pas avoir le médicament, je me débrouille moi-même. Donc c'est moi qui dose, c'est moi qui fais pousser ou qui achète dans la rue ou ailleurs. C'est comme ça que ça se passe, en réalité.
Oui, et puis sans prescription, sans suivi médical. Il a raison de rappeler le pharmacien, Pierre-Alex, qu'il y a des effets indésirables qui peuvent être très gênants. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'ouvre exprès pas le débat du cannabis récréatif, mais pour avoir vu des gamins qui font des pharmacopsychoses cannabiques, l'introspection, le ralentissement, la réduction des journées chez les jeunes. Hein, on parle pas. On pourrait débattre du récréatif. C'est pas la même chose chez un jeune de 15 ans qui fume avant d'aller au lycée que quelqu'un de 35 ans qui, au lieu de siffler une bière, va fumer. Bon, mais quand bien même, c'est pas le débat à ouvrir aujourd'hui. Mais il est évident qu'il peut y avoir des effets indésirables. Et puis il y a pas de contrôle des produits. Et puis, pardon, là c'est aussi l'élu qui parle en matière de trafic. Aller acheter dans les cités votre cannabis, c'est entretenir aussi un trafic qui gangrène la vie des villes et des familles.
Bonsoir Vincent.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu Vincent, on vous écoute.
Oui, moi mon témoignage, d'abord évidemment bravo pour vos émissions, c'est bien de parler de ce type de sujet. Moi je comprends pas pourquoi il y a toujours ce débat en France entre le cannabis thérapeutique et le cannabis récréatif, parce qu'on fait jamais de parallèle entre la morphine et l'héroïne, et je crois que ça fait partie aussi des vrais problèmes en France, c'est qu'il y a toujours un peu cette psychose entre commencer par un joint, finir par la shooteuse, ce genre de propos, et qui fait qu'on mélange un peu tout, alors qu'à l'origine on parle d'une plante, quoi, d'une plante qui est et qui devrait être aussi cultivée de manière bio, de manière pour éviter qu'il y ait ce genre de dérive aussi, pour essayer d'éviter d'avoir des produits surdopés.
Vincent, je vous pose la même question que précédemment. Vous qui utilisez du cannabis parce que ça vous soulage, vous allez le chercher où? Vous faites comment en fait? Comment vous vous débrouillez?
Oui, on s'arrange, on essaie de faire pousser quand on peut, on essaie d'acheter quand on peut, mais c'est vrai que quand on est en pleine chimiothérapie, dans des conditions, dans les hôpitaux, tout ça, moi le plus simple, ça a été quand même dans des moments... difficile de me rapprocher effectivement de la Suisse pour essayer de trouver des teintures mères qui, je le dis au passage, n'ont pas quasiment de THC, sont quasiment que du CBD pur, et qui m'ont énormément soulagé dans les moments où ça allait pas. Après, c'est vrai qu'au niveau de l'absorption et de la rapidité et de la qualité de l'effet, je dois dire que le plus rapide et le plus pratique, c'est quand même de le fumer pur, évidemment, hein, sans le mélanger à du tabac. Et puis, fumer de l'herbe, pas fumer du shit, du hashish. Mm-hmm. Hein, ça, c'est aussi la différence. Et aussi, de dire que à chaque variété de marijuana a son fumeur aussi. Mm-hmm. Ça, c'est une réalité aussi. C'est qu'il y a des marijuana qui m'ont fait du mal et d'autres qui m'ont fait beaucoup de bien. Il faut arriver aussi à trouver les variétés qui correspondent idéalement à nos besoins, finalement. Et je connais des gens qui en prennent des doses plus fortes parce qu'ils ont des problèmes plus neurologiques et qui apaisent certaines schizophrénies, et d'autres, au contraire, qui consomment, et ça va être déclencheur de crise de schizophrénie. C'est vraiment d'arriver à trouver le produit qui correspond idéalement à la personne aussi, quoi.
Merci pour ce témoignage. Ça, c'est pour vous, la dictologue, Amine Yamina.
Alors, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Pourquoi le cannabis a cette image? Parce que Olivier le disait tout à l'heure, c'est la drogue de l'autre. Ouais. C'est la drogue de l'autre, la drogue de l'étranger qui vient gangréner la société française. Alors qu'en même temps, on choisit finalement ces drogues pour pouvoir les stigmatiser. Alors qu'en France, l'alcool, qui est la drogue locale, tue 49 000 morts, 49 000 personnes tous les ans. Mmh. C'est-à-dire, le cannabis, a priori, on a affaire à... On est très clairement sur des situations aussi où la société choisit en quelque sorte la stigmatisation pour laquelle on met en pâture les choses. Et on ne sortira pas de cette comparaison si clairement on ne n'ouvre pas les débats et on ne permet pas à ce cannabis d'être aussi une pharmacopée. Tant qu'on l'a pas, on aura ce sentiment que derrière ce débat où on a des éléments de rationalité scientifique, on avance pour essayer de légaliser le cannabis festif. Qui est un autre sujet dans lequel on connaît les facteurs de vulnérabilité, les facteurs de risque.
Et alors, je ne veux pas expliquer aux gens comment on roule des joints, pas exagérer, mais ce qu'il dit sur l'herbe et le hashish, par exemple, est-ce que c'est vrai? Pourquoi c'est différent? Pourquoi les effets sont différents de ce que dit Vincent entre l'herbe et la racine?
Alors, moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat parce que, en fonction du titrage, en fonction de l'origine, la susceptibilité, l'âge et la concentration, on va avoir des réactions différentes. Et en plus de ça, on consomme de plus en plus du cannabis qui est génétiquement modifié. Et on peut avoir, avec le même aspect extérieur galénique, des réactions différentes et des titrages différents. Et donc, c'est la raison pour laquelle il vaut mieux renseigner. Et c'est ce qui se passe, par exemple, aux Pays-Bas. Les gens, quand ils vont dans les coffee shops, ils savent de quoi il s'agit, y compris dans une démarche thérapeutique.
Question Rafale sur franceinter.fr pour vous deux. Est-ce que le cannabis médical est détectable lors d'un contrôle routier?
Oui.
Bien sûr.
Et ça pose une grosse difficulté au législateur que je suis. C'est... Ça veut dire que...
Vous, entre le neurologue et le législateur...
C'est la bascule permanente, mais c'est intéressant en même temps. Mais oui, le fait d'avoir une ordonnance doit pouvoir, mais il faut sans doute modifier le droit. Mais de la même façon...
Ça veut dire qu'il ne faut pas trop conduire quand on est sous une ordonnance thérapeutique.
Vous avez des substances où il y a marqué sur votre boîte de médicaments, attention de ne pas conduire. Mais vous n'avez pas d'interdiction formelle de conduire. Par contre, vous pouvez avoir des problèmes d'assurance. Donc ça, c'est partie des petits, entre guillemets, problèmes auxquels il faut répondre si jamais on voulait ouvrir un peu l'accès au cannabis thérapeutique.
C'est un arbitraire. Si un policier vous arrête en Creuse et un policier vous arrête en Île-de-France, vous risquez d'être perçu autrement, alors que la loi est la même. Il y a un élément d'interprétation qui est très, 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 très particulier en matière de cannabis.
Les traces de cannabis restent très longtemps dans le sang.
Qu'est-ce qu'on fait quels sont les effets sur la maladie de Parkinson, nous demande cet auditeur sur franceinter.fr. Est-ce que c'est comme la sclérose en plaques ou les choses comme ça? Il y a un certain nombre de choses qui ont été,
des études qui sont positives, qui montrent que ça pourrait soulager une partie des tremblements, etc. Sur certaines formes de Parkinson aussi, comme dans l'épilepsie, il n'y a pas qu'une maladie Parkinson, il y a plusieurs symptômes parkinsoniens. Et puis d'autres études qui sont un peu plus décevantes, mais encore une fois, c'est toujours le même problème, c'est que pour faire une étude correcte, il faut énormément d'argent, et pour ça, il faudrait que des laboratoires s'investissent. Sinon, la seule chose qu'on peut faire, c'est profiter d'un registre de patients qui bénéficieraient du cannabis à visée thérapeutique pour regarder en vie réelle quel est l'impact sur leur santé.
Bonsoir Bernard.
Oui, bonsoir.
Vous êtes professeur de neuropharmacologie, Bernard, vous connaissez bien le sujet.
Oui, en fait, je suis professeur de neurosciences, je ne suis pas médecin, je suis scientifique, mais ma spécialité est la neuropharmacologie de la douleur.
D'accord.
Et donc, je connais particulièrement bien le problème, puisque j'ai écrit déjà depuis plus de 10 ans de nombreux articles plaidoyer pour l'introduction du cannabis thérapeutique dans des revues très sérieuses, comme Pour la Science, comme la revue Douleur, etc. Et tout ça ne sont hélas que des coups d'épée dans l'eau. Alors, je voudrais dénoncer deux hypocrisies et faire un plaidoyer. Les deux hypocrisies, c'est un, le fait que il y a 30 ans, en 1988, le secrétaire d'État Bernard Kouchner avait demandé au professeur Bernard Rock de faire un rapport sur la dangerosité des drogues. Et dans ce rapport, Bernard Rock, qui avait travaillé avec toute une équipe, a effectivement montré que le cannabis était le moins dangereux de toutes les drogues, et en tout cas beaucoup moins dangereux que l'alcool et le tabac, qui sont en vente libre et qui pèse lourdement dans le budget de la sécurité sociale. Donc ça, c'est mon premier coup de gueule. Le deuxième coup de gueule, c'est l'hypocrisie de la commission de transparence qui refuse le prix proposé par le laboratoire pour le Sativex, dans la mesure où ils prétendent que le service médical rendu par le Sativex est insuffisant pour justifier le prix. Ce qui est une hypocrisie totale, sachant que l'AMM qui a été décerné ne porte que sur la sclérose
l'autorisation de mise sur le marché.
Que sur la sclérose en plaques, et à condition que le médicament soit délivré par un neurologue d'hôpital, c'est-à-dire qu'on a fait les calculs, ça concerne à peu près 6000 patients en France. Mais de toute façon, ils peuvent même pas en profiter puisque le Sativex n'est pas disponible. Donc voilà mon deuxième coup de gueule, hypocrisie de notre système en France. Troisième chose que je voudrais dire, et c'est là-dessus que moi, en tant que spécialiste de la douleur, je voudrais intervenir. Dans le traitement des douleurs neuropathiques, on a peu de médicaments qui sont actifs. Il y a quelques antiépileptiques, il y a quelques antidépresseurs, mais malheureusement avec des effets secondaires importants que nos patients ne supportent pas toujours. Et beaucoup de patients qui ont des douleurs neuropathiques, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils fument du cannabis, ils vont en Hollande acheter leur cannabis, et puis ils se soulagent comme ils peuvent de cette manière-là, et ça ne leur pose aucun problème. Mais par contre, ils prennent un risque légal, médico-légal, qui a déjà été souligné par vos collègues dans l'émission.
Absolument.
Donc voilà, moi je voudrais...
Merci, pardon de vous interrompre Bernard, parce qu'il nous reste 5 minutes et on a encore des auditeurs en ligne et je voudrais pouvoir avoir le temps de les entendre, mais Amine Benyamina, vous ne pouvez qu'être d'accord avec
votre confrère. Évidemment, d'ailleurs, même je dirais que en 88, lorsque Bernard Rock a fait son classement, évidemment c'est un classement que régulièrement nous rappelons, c'est pas le seul. En Angleterre, il y a un certain David Nutt qui a fait le même classement, simplement un mois après, il a sauté. C'est comme ça, il y a des vérités absolument pas bonnes à dire. Et c'est clair que là on arrive à la fin d'une logique contre laquelle on essaye de lutter.
Jules César était épileptique, nous dit cet auditeur sur franceinter.fr. Il consommait des infusions de cannabis pour apaiser ses douleurs après ses crises. Ça ne l'a pas empêché d'avoir une vie intéressante.
La reine Victoria se soignait au cannabis, les règles douloureuses qu'elle avait.
D'ailleurs, elle fumait, elle le mettait dans son thé, elle faisait comment la reine Victoria?
Elle avait un médecin qui était un apothicaire.
Bonsoir David.
Bonsoir. Merci beaucoup de prendre mon témoignage.
Votre femme n'est pas la reine Victoria, mais elle sait faire aussi.
Oui, exactement. Alors, que j'explique un petit peu. Donc, notre fille est née en 2011 et ma femme a souffert de dépression postnatale pendant 2 ans. Mm-hmm. Donc, nous avons essayé toutes les thérapies douces. Ça pouvait être les plantes, la psychothérapie, mais on ne voulait pas passer sur des traitements lourds. Puisqu'effectivement, bah, y a les antidépresseurs sont très addictifs également. Et donc, du coup, nous avons eu la chance chez un ami de pouvoir avoir un petit peu de cannabis qu'il faisait pousser lui-même, donc dont nous connaissions donc la provenance. Et après cette consommation, donc sous forme de gâteau, tout simplement, enfin voilà. Oui, voilà, Space Cake, exactement. Et donc, du coup, après cette consommation, ben les problèmes de crise d'angoisse et de dépression sont partis. Et donc, du coup, depuis 2013, elle n'a plus du tout fait de crise.
Merci pour ce témoignage, David. Mm-hmm. Il y a des études qui parlent
il y a une littérature, en quelque sorte. Il y a une littérature qui montre que, évidemment, sur des essais qui ont été faits en Allemagne et aux États-Unis sur certaines indications de ce qu'on appelle l'anxiété généralisée, non pas les attaques de panique, ça a montré son efficacité sur les états de stress post-traumatique. Et je vais vous étonner, il y a même des études qui montrent sur une composition précise de cannabis thérapeutique des effets sur des états psychotiques.
Mm-hmm. Voilà. Très très rapidement, Françoise, si vous le voulez bien, allez-y, on vous écoute.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, Françoise.
Merci de prendre mon appel. Je souffre, j'ai été diagnostiquée à la suite d'un traitement anti-épileptique sur la fibromyalgie, qui est une maladie extrêmement invalidante et très douloureuse, pour laquelle il n'y a pas de traitement. J'avale des doliprane, j'avale du griffonia, et je voudrais savoir si éventuellement le cannabis pourrait m'aider. Je dois vous dire que je suis quelqu'un de très profondément anti-drogue, mais que si jamais quelque chose me soulageait, je serais la plus heureuse des femmes.
Merci beaucoup, neurologue. Françoise. Olivier Véran, rapidement pour répondre à Françoise. Non, sa fibromyalgie qui est très douloureuse.
Mais vous voyez, ça répond à la même question que celle que je posais depuis le début de l'émission. C'est qu'il y a beaucoup de questions auxquelles on ne sait pas répondre. Mais je suis marqué, je suis frappé après ces 40 minutes d'émission en votre compagnie par le nombre de témoignages qui vont dans le sens de il n'y a pas de raison de se fermer des portes. Il y a des gens qui vous disent qu'ils sont soulagés, quels qu'en soient les motifs, quels qu'en soient les raisons. C'est ce que me disent aussi les patients que j'ai parfois en face de moi quand je porte la blouse blanche. Et c'est pour ça que je ne regrette pas l'initiative que j'ai prise d'organiser ces auditions à l'Assemblée nationale et que j'ai sollicité la ministre de la Santé pour pouvoir continuer à travailler sur cette question sans a priori, sans tabou. C'est comme ça qu'on fait de la politique.
Très très vite, parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus, je souhaiterais connaître la différence entre le cannabis thérapeutique et l'huile de CBD. Est-ce que l'huile de CBD est considérée comme ayant vertu thérapeutique ?
Le CBD, c'est un cannabinoïde qui peut être associé à du THC ou pas et qui constitue du cannabis thérapeutique dans certaines indications.
Voilà. Et puis je voudrais rassurer cette auditrice aussi qui nous dit qu'elle écoute notre émission et que sa fille a eu un épisode psychotique avec bouffée délirante à la suite d'une consommation excessive de cannabis. Elle a été traitée, évidemment. Donc je veux bien croire, dit-elle, qu'il y ait des effets bénéfiques et thérapeutiques. Mais attention à bien rappeler les effets néfastes du cannabis. Et bien sûr qu'on rappelle ici les effets néfastes du cannabis, encore une fois, ne pas confondre ce qui est thérapeutique et ce qui est tout à fait autre chose. Merci beaucoup. Merci à tous et portez-vous bien.